Bonjour et bienvenue dans Meilleur Allié, le podcast qui vous aide à vous sentir bien dans votre vie professionnelle en cultivant votre relation avec vous-même. Alors oui, peut-être que les habitués du podcast ont remarqué que j'ai changé l'accroche. Alors le fond reste le même, mais j'ai choisi de cibler davantage les enjeux que l'on rencontre dans notre quotidien au travail. Parce que la vie professionnelle est un gros morceau de notre vie et qu'elle cristallise beaucoup de nos préoccupations. Et en même temps, nous ne parlerons pas que de travail, car notre rapport à la vie professionnelle évolue et que notre identité se résume de moins en moins à notre job. Nous sommes même nombreux et nombreuses à vouloir que le travail contribue à notre épanouissement au sens large, et à en attendre donc bien plus qu'un moyen de gagner sa vie. J'aurai l'occasion de vous reparler de tout ça plus longuement une prochaine fois. Sinon, je m'appelle toujours Marie Legac, je suis toujours coach professionnel certifié et vous écoutez l'épisode 14, créer un projet de cœur grâce à un bon état d'esprit. Aujourd'hui, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Aurélie Gzel, créatrice du podcast Rembobinette. Rembobinette est un podcast dans lequel Aurélie invite des personnes âgées à raconter leur parcours de vie, leurs souvenirs et leurs histoires dans la grande histoire. Aurélie est une de mes amies depuis plus de 10 ans et je l'ai vue partir d'une page blanche avec ce projet qu'elle a créé en parallèle de son emploi à temps plein. J'ai suivi les différentes étapes de création de son podcast et ses questionnements et j'ai pu voir les nouvelles perspectives professionnelles que ce projet de cœur lui a ouvert et même la manière dont elle a reconsidéré la place du travail dans sa vie. L'épisode d'aujourd'hui est riche car nous allons parler de comment elle est passée de ses premières idées aux premiers épisodes concrets, de la manière dont elle s'y est prise pour oser se lancer dans quelque chose de nouveau et oser parler de son podcast à son réseau, dans la presse et à la radio. Comment elle a donné de l'ampleur à son projet au travers d'une campagne de financement participatif, de la recherche de sponsors, de partenaires, jusqu'à lui faire envisager une reconversion et saisir une opportunité professionnelle inattendue après une période difficile de creux. Et bien sûr, comme vous écoutez Meilleur Allié, nous parlerons de comment elle a vécu tout ça de l'intérieur, avec ses émotions, ses doutes, ses difficultés et ses joies. Bienvenue dans notre discussion, et moi je vous retrouve à la fin pour les mots de conclusion. Bonjour Aurélie, bienvenue sur le podcast Meilleur Allié. Merci d'être avec moi ce matin.
Merci Marie pour l'invitation.
Avec plaisir. Alors, je t'ai un peu présenté dans l'introduction, mais vraiment très, très brièvement. Ce que je voulais te demander déjà pour commencer, c'était de te présenter de la façon qui te plaît, qui te convient. Donc, je te laisse choisir tes mots pour parler de toi.
Ben, je m'appelle Aurélie, j'ai 32 ans, je suis alsacienne et je vis près de Strasbourg. Et puis, si je peux dire deux choses sur moi, dans la vie, j'aime bien marcher. Tout simplement, j'adore les randonnées par exemple, et la lecture. Voilà, donc aller en librairie, acheter des livres, les lire, en parler avec mes copines. Et voilà, je dirais que c'est ça les deux traits caractéristiques chez moi.
Ok, bon, ça nous fait déjà des points communs, mais bon, je le savais déjà, puisque je n'ai pas caché en intro que nous étions amis de longue date. Alors, aujourd'hui, je t'ai invitée dans le podcast pour nous parler plus spécifiquement de ton projet Rembobinette, puisque j'en ai suivi pas mal d'étapes depuis le début, et je trouve que tout ce que tu as mis en place pourrait aussi inspirer d'autres personnes. Donc, déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que c'est que Rembobinette et de ce que ça représente pour toi aujourd'hui?
Rembobinette, c'est un podcast, déjà. Et le but de ce podcast, c'est de donner la parole aux aînés, donc aux personnes très âgées. Et j'ai arbitrairement décidé que c'était à partir de 70 ans. Parce que je m'étais dit, à partir de là, tout le monde est à la retraite. Donc, il y a cette expérience de personnes âgées qui a eu le temps de prendre du recul et qui pourra m'en parler. Et donc, le but, c'était à la fois, comme le nom l'indique, de donner la parole aux aînés, donc de récolter leur mémoire, leurs souvenirs, mais aussi de les remettre sur le devant de la scène, parce que je trouvais qu'on ne voyait jamais de vieux à la télé, à la radio. On a l'impression qu'il y a une date de péremption, et à partir de là, fini, on ne les voit plus. Et là, c'était l'occasion de leur donner un micro et de leur dire, de me raconter leur vie. Et c'est assez large ce que je leur demande, c'est-à-dire que je ne leur demande pas un angle particulier, une période particulière, c'est vraiment eux qui décident de quoi ils veulent parler et quels sont les souvenirs qu'ils veulent transmettre aux générations d'après.
Mmh. Ok. Et ça, c'est un projet aujourd'hui que tu mènes sur ton temps personnel, c'est ça ?
C'est ça. C'est pas mon travail, c'est sur mon temps libre. Entre deux randonnées et une lecture, je fais ça.
Ok, ouais, une vie déjà bien remplie. Est-ce que tu peux revenir un peu en arrière, justement, bah, rembobiner toi aussi, et nous raconter un peu le début, donc déjà nous dire quand c'était la première idée, et puis comment tu t'y es prise pour laisser venir cette idée et comment ça a démarré en fait?
Le tout début, c'était bien avant Covid, peut-être 2-3 ans avant, à un Noël où j'étais assise, comme souvent, à côté de la personne la plus vieille de la soirée. Et parce que je m'entends bien en général et j'aime bien les écouter, donc on m'avait mis à côté de la grand-mère de mon demi-frère, pour simplifier. Et en fait, elle me racontait comment elle avait été déportée au moment de la guerre entre Strasbourg et les Vosges. Et toute une histoire avec un vieux monsieur, elle avait dormi sur ses genoux, puis des années plus tard, elle l'avait retrouvé dans une bijouterie en reconnaissant sa montre, enfin voilà. Et en fait, son petit-fils, il connaissait pas cette histoire. Et je me suis dit, mais ça va se perdre, il faudrait faire quelque chose. Et là, j'ai commencé à réfléchir, ben, à récolter ses mémoires à elle, et peut-être les mémoires de quelqu'un d'autre, et d'autres personnes s'y seraient d'accord. Et donc ça, c'était le point de départ, et ça a mûri dans ma tête, et j'étais quasi prête à me lancer, c'était dans mes bonnes résolutions de l'année. Et en fait, il y a eu le Covid. Donc, je sais pas, c'était mes résolutions de janvier. Et puis, en mars, c'était foutu. Et surtout, même une fois que le Covid était passé, les personnes âgées étant les personnes les plus sensibles, vulnérables à ce virus, j'ai attendu que les vaccins soient aussi faits. Et puis, j'allais que chez des personnes qui étaient vaccinées. Et donc, voilà, ça a un petit peu retardé le début. Mais vraiment, l'origine du projet, c'était les mémoires de la grand-mère de quelqu'un de ma famille que je voulais pas perdre. Et je me suis dit, le meilleur moyen, c'est le podcast, parce que comme ça, moi, de mon côté, c'est plus simple, j'ai qu'à gérer le son. Et du côté des personnes âgées, elles n'ont pas à gérer leur image, ça leur faisait un petit peu peur. Et quand il n'y a qu'un micro, elles l'oublient très vite.
Mmh. Et toi, le podcast, à ce moment-là, c'était quelque chose que, avec lequel tu étais familier c'est...
En tant qu'auditrice, oui, ouais. Mais en tant qu'actrice, non. Mais j'en écoutais beaucoup, parce que, comme je disais, j'adore marcher. Donc, quand je marche, souvent, je mets un podcast. J'aime bien les émissions criminelles, j'aime bien les témoignages de vie type transfert. Donc, j'avais des inspirations de plein de types de podcasts, mais j'en avais jamais fait.
Ok. Je sais pas, moi, par exemple, quand j'ai lancé le podcast, au début, je me suis dit, ça doit être un truc de professionnel, il faut du matériel, il faut une aisance orale, etc. Est-ce que toi, c'est des questions aussi que tu t'es posées de ta capacité à lancer un projet comme ça de podcast ?
Sur le son et l'aspect technique, carrément, parce que ça me semblait difficile d'avoir un son agréable à écouter. Et puis en fait, j'ai fait quelques petites recherches et je me suis dit, ça n'a pas besoin d'être parfait tout de suite. Déjà, au début, je pense que c'est le fond qui doit intéresser. Et puis si on voit que ça intéresse, on peut toujours s'améliorer, trouver un meilleur micro, investir dans quelque chose d'un petit peu plus pro, comme j'ai maintenant, alors qu'avant, j'ai commencé avec un petit micro tout simple que je posais entre moi et les personnes, et elles adoraient, et limite, elles l'oubliaient beaucoup plus vite, parce que maintenant, j'ai tout un setup avec des micros que je mets sur des trépieds qu'ils ont devant eux, et ils ne peuvent pas oublier qu'ils sont en train de parler et que c'est enregistré, alors qu'avant, ils oubliaient très très vite le petit truc qu'on avait entre. Et après, je me disais pareil, est-ce que le montage, je vais y arriver ? Puis finalement, c'est en faisant que j'ai appris, et je me disais, c'est pas professionnel, si c'est pas parfait, tant pis. C'est ça que j'aimais bien avec ce projet aussi, c'est que c'était pas professionnel, donc ça enlève tout de suite la pression du résultat financier, du résultat tout court. En fait, c'est pour le plaisir, quasi 100%. Mmh. Et ça m'a libérée de toutes ces considérations de « il faut que ce soit parfait ».
Ouais, ok. Du coup, quand tu as eu cette idée-là, donc tu disais, rapidement, en fait, est arrivé le Covid. Donc là, on est arrivé exactement sur un exemple d'obstacle extérieur qui ne dépend pas de toi, sur lequel tu n'as pas de contrôle. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Et qu'est-ce qui fait que ça t'a pas découragé, en fait, ce Covid long qui t'a un peu mis un pied sur le frein dès le début?
J'avais toujours envie de le faire. Et je me suis dit que comme j'aurais très bien pu prendre ça comme une excuse pour dire j'arrête. En fait, l'univers me dit que c'est pas le moment, qu'il faut pas. Enfin, et comme j'avais quand même envie de continuer, je me suis dit que c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur et que j'allais pouvoir avancer sur les choses où il n'y a pas encore besoin de rencontrer des gens. Donc trouver un nom, faire un logo, trouver mes couleurs, réfléchir aux questions que j'allais poser à mes invités. Tout ça, je pouvais le faire, et même très bien, puisqu'on ne pouvait pas sortir, on n'avait que ça à faire finalement. Et donc, j'ai avancé sur ce sur quoi je pouvais avancer, tout simplement. Mais après, c'est vrai que quand le Covid s'est terminé, là, je m'étais dit, ah bah, faut attendre que les gens soient vaccinés. Enfin, je me trouvais toujours une petite excuse pour repousser le moment d'enregistrer, en fait. Parce que là, ça devient concret quand on va voir des gens, qu'on leur explique ce qu'on va faire et qu'on récolte leur mémoire, ben, ils attendent en retour qu'on fasse un épisode, qu'il y ait quelque chose qui se passe derrière. Et à un moment, je me suis dit, bon, ben, cette mamie que j'ai repérée, elle est vaccinée, moi aussi, je mets un masque et puis j'y vais. Et donc là, ça devenait vraiment très concret. En plus, j'en avais parlé à tous mes collègues, ils attendaient que ça sorte. Donc voilà, je me suis mis une pression comme ça, douce hein, bien sûr, mais en parlant aux gens. Et en me bougeant pour aller voir la première personne et pour commencer.
Ouais, c'est vrai que ça marche bien de s'engager auprès d'autres personnes qui, du coup, te demandent un peu des nouvelles. Et ça te... Alors, ça peut mettre la pression, mais ça peut aussi motiver, du coup, à faire des actions concrètes.
Oui, puis on se dit, si ils attendent le premier épisode, c'est que ça devrait intéresser. Enfin, ils m'ont pas dit, non, mais laisse tomber ton idée, ça marchera jamais. Donc, ça m'a aussi encouragée de ce côté-là. Et après, bah, je me suis lancée en allant voir la première grand-mère, le premier grand-père. Et puis, voilà, j'avais un homme, une femme et j'ai commencé l'épisode. Le premier, c'était une femme quand même. Mais en vrai, c'est la deuxième personne que j'ai interviewée.
Et donc là, quand tu as tes enregistrements, donc tu fais tes montages, ok, donc pour l'instant, ce n'est pas encore public.
Ouais.
Et vient le moment où tu appuies sur « publier ». Et là, qu'est-ce que tu te dis? Et aussi, qu'est-ce que tu as en tête au moment de le partager aux autres, du coup, puisque tu as senti qu'il y avait une attente et que tu en avais parlé autour de toi?
Ben, quand on clique, on a l'impression que ça a changé quelque chose. Que d'un coup, tout le monde va nous appeler. Ah, j'ai vu l'épisode, ah là là. Et en fait, ben non, puisqu'il n'y a que nous qui attendions ce moment et qui étions là en mode, oh là là, ça va sortir. J'ai fait un décompte sur les réseaux sociaux, mais à l'époque, il y avait peut-être 50 personnes qui me suivaient. C'était de toute façon ceux à qui j'en avais déjà parlé. Donc, j'étais un petit peu. Presque déçue les premières minutes. Et après, je me suis dit, ben non, c'est normal, on va laisser un peu de temps. Et puis finalement, c'est mes collègues qui m'ont fait les premiers retours parce qu'eux, ils l'attendaient depuis longtemps. Je leur en parlais tous les jours. Et ils me disaient, ah ben c'est bien, ça fait vachement pro, cette intro avec de la musique. En fait, ils ne s'attendaient pas à ce que j'ai fait un montage aussi qualitatif, entre guillemets, pour une première fois. Et donc, mes premiers retours, ils étaient chouettes, j'étais contente. Et puis, j'ai même eu des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années, des gens du lycée, qui sont venus me dire « Ah bah c'est super, j'aurais bien aimé avoir ça pour mon grand-père, ma grand-mère, ma tante, enfin voilà. » Et donc, ça m'a encouragée dès le départ de recevoir ces retours-là.
Ok, super. Et est-ce que tu as eu d'autres difficultés? Je pense par exemple, je ne sais pas, parfois quand on se lance dans un projet, il y a l'effusion du départ et puis après, en fait, on se lasse un peu. Ou alors la difficulté à créer du temps dans son emploi du temps, parce que j'imagine qu'entre les rencontres, le montage, c'est quand même plusieurs heures que tu consacres à ce projet. Ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses pour toi qui t'ont semblé difficiles au démarrage?
Les deux choses, c'était le temps, comme tu dis, et puis le financement. Puisque je t'avais dit, il y a un petit peu de matériel à avoir au début, même si j'avais choisi de commencer avec un setup simple, il fallait quand même investir. Et je me suis dit, bon, ben, l'argent, je vais le trouver au lieu de faire je sais pas, des sorties ou m'acheter des livres ou je ne sais pas quoi, je vais acheter ça. Donc ça, j'ai réglé le problème assez simplement, en tout cas au début, pour se lancer. Et après, restait le problème du temps. À cette époque-là, je travaillais dans une start-up. Donc c'est déjà très prenant en termes professionnels. Et je me disais, mais comment je vais faire? Et finalement, d'être dans cette start-up avec des gens hyper engagés, qui avaient plein d'idées, qui étaient très créatifs, bah, ça m'a donné une certaine énergie. Et d'avoir cette énergie-là de finalement création, que tu retrouves beaucoup dans les start-up, bah, j'ai réussi à trouver le temps. Parfois, je regarde en arrière et je me dis, je ne sais pas trop comment. Mais c'était globalement une demi-journée par week-end que je consacrais à ça. Et puis... les interviews le soir ou d'autres week-ends. Mais ouais, je pense qu'à cette époque-là, en plus du travail, je devais avoir un jour par semaine que je consacrais au podcast d'une manière ou d'une autre. Et c'est quand même le nerf de la guerre d'avoir ce temps-là. Parce que là, je fais qu'un épisode par mois, mais quand j'ai lancé ma campagne Ulule pour lever des fonds et pour pouvoir aller plus loin, avoir des gens qui viennent pas seulement de ma région et autour. J'ai fait une estimation du temps que je passais par épisode et on arrive quand même entre la prise de son, le montage, la communication, tout ce qui va autour avec la presse, etc., à une moyenne de 20 heures par épisode. Donc c'est beaucoup de réussir à caser ça et c'est pour ça que j'en fais qu'un par mois. Et maintenant, dans mon nouveau travail, ça va mieux parce que j'ai été plus réaliste. J'ai pris un travail où il y a quand même pas mal de jours de congés, qui fait qu'au global, je travaille à 90%. Et c'est important pour moi d'avoir un travail comme ça pour garder du temps pour mon podcast à côté, qui d'ailleurs va être amené à se transformer. Enfin, il y aura plein d'autres projets autour.
Ouais, super. Bah, on va reparler un petit peu de ce que c'est aujourd'hui et de ce que ça a impliqué aussi dans ta vie professionnelle, en tout cas ces derniers mois. Avant ça, je voudrais juste revenir un petit peu en arrière. Au moment où tu crées donc tes premiers épisodes, tu disais, voilà, je le faisais surtout pour le plaisir, donc pas de pression, c'était pas un projet professionnel. Est-ce que néanmoins, tu avais, je ne sais pas, un objectif, une vision pour ce projet? Est-ce que tu t'es dit, j'aimerais créer tant d'épisodes, toucher tant de personnes, interviewer enfin, ou est-ce que tu te disais, bah, je vois au fil de l'eau?
Je me disais plutôt, je vois au fil de l'eau. Au début, j'avais tendance à dire, même s'il n'y a qu'une personne qui écoute, c'est déjà ça. Parce que j'avais le plaisir, moi, d'aller rencontrer les personnes âgées. Donc, j'ai quand même des gens... incroyable, hein, des anciens résistants, des gens qui ont survécu à des camps de concentration, des mamans qui ont eu leur premier enfant adolescente, des infirmières, des gens qui ont changé de voie qui étaient avant dans la religion. Donc j'ai une religieuse qui est devenue maman donc, et qui s'est mariée avec un prêtre. Donc des histoires incroyables. Donc déjà, juste ça, pour moi, c'était suffisant pour être contente. Et après, bah, plus le temps passe, plus on y passe du temps et plus on voit ces histoires incroyables, plus on a envie qu'elles soient écoutées par d'autres. Et c'est là où je me suis dit, bah, il faut que j'ai plus d'écoute, sans me donner forcément un chiffre, mais me dire, c'est quand même dommage que tous ces témoignages ne soient pas plus écoutés. Et c'est là que j'ai eu envie d'aller voir la presse.
Oui. Alors juste là, ce que je trouve super intéressant, c'est que... Bah en fait, contrairement à des personnes qui parfois se mettent un peu la pression dès le début sur le résultat, le fait que ça plaise aux autres, etc., toi, j'ai l'impression que ce qui t'a plu, en fait, c'était déjà rien que le processus, le fait de faire des rencontres, le fait de te nourrir de ces échanges, de ces histoires insolites. Et en fait, rien que toi, le plaisir que tu prenais dans les rencontres, en fait, ça suffisait à ce que le podcast, en fait, soit déjà un succès pour toi.
Ouais, mais carrément. Et en plus, c'est ce que je préfère toujours à l'heure actuelle, c'est d'aller voir les personnes, de les écouter, de prendre l'enregistrement. Et en fait, je fais l'enregistrement pour que ça ait un sens derrière pour d'autres, mais je pourrais m'arrêter là, juste aller voir les gens et les écouter. Et ça prend du temps de faire la suite, mais c'est vraiment la partie que je préfère de les rencontrer.
Ouais, ok. Alors, t'allais commencer à nous parler un peu de ta rencontre avec la presse. Et je me souviens, au moment où t'as commencé à vouloir élargir l'audience du podcast, tu m'avais dit, voilà, j'ai fait un communiqué de presse, j'ai prévu de contacter des journalistes. Et moi, je m'étais dit, waouh, voilà, elle est déjà en train de parler de son projet de manière super large. Alors qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui parfois n'osent pas parler à des professionnels de leur projet, la peur peut-être d'être un peu jugée. Toi, comment tu l'as vécu et comment tu t'y es pris pour faire parler de ton projet à d'autres personnes?
En fait, au début, comme je suis passée par le cercle privé, par les réseaux sociaux, ben, ça s'est essoufflé au bout d'un moment. Ça a stagné, le nombre d'écoutes et les nouvelles personnes qui arrivaient sur le podcast. Et je me suis dit... Bon, alors je viens du marketing aussi, peut-être je ne l'ai pas précisé au début, donc faire des communiqués de presse, faire de la com, ça fait quand même partie de mon métier. Je me suis dit, pourquoi pas le faire sur ce podcast, ça peut intéresser. C'est un sujet assez consensuel, hein, donner la parole aux personnes âgées. Et puis il y avait le scandale Orpea en même temps. Donc toutes ces personnes âgées qui étaient maltraitées, on n'arrêtait pas de dire personnes âgées, maltraitées, malades, solitude, mort. Voilà, c'était ça qu'on disait sur les vieux. C'est-à-dire, bon, il y a quand même autre chose à dire et c'est comme ça que j'ai interpellé les journalistes. Donc je savais que j'avais une accroche. Je commençais mon mail avec ces mots en fait, en disant vous en avez pas marre de parler des personnes âgées, en disant mort, solitude, blablabla, parce que moi j'ai autre chose à vous proposer. Et ça, c'était mon accroche et ça a très bien marché. et j'ai eu des retours quasi immédiats. Parce que bon, j'étais... pas 100% confiante en mon approche non plus. En général, je me fais plutôt snobber par les journalistes quand je fais des communiqués pour les entreprises dans lesquelles j'ai bossé. Et là, bah, je les ai envoyés en matin. Je me suis dit, bon, bah, on verra déjà. Et en fait, le jour même, il y a des gens qui m'ont recontactée. Et j'étais là, ah ouais, quand même, ça prend. Et le lendemain, il y avait une journaliste dans mon salon.
Et là, comment ça s'est passé pour toi ?
J'étais trop contente. Alors ça fait partie des bons souvenirs, parce que le projet il m'intéresse, que je sois contente d'aller rencontrer Mathilde, Ginette et tous les autres, bah c'est bien pour moi, mais de me dire que ça intéresse des journalistes au point qu'ils viennent me voir dès le lendemain, j'étais super contente. Et alors c'était pour le journal local chez moi, les dernières nouvelles d'Alsace, et en fait quand c'est sorti, il y a tellement de gens qui le lisent dans ma famille, dans les parents de mes amis, que bah, j'ai eu plein de mentions sur les réseaux sociaux, de bravo Aurélie et tout. Et surtout, comme c'est un journal qui est lu quand même par une génération assez âgée, j'ai eu de nouveaux invités. Et c'est la première fois que j'avais des invités dans mon podcast qui ne venaient pas de mon cercle. Donc je pouvais avoir des histoires un petit peu différentes et aller un peu plus loin en Alsace.
Ouais, donc ça a fait un peu effet boule de neige et ça a rayonné autour. Donc l'objectif était atteint d'élargir l'audience. Donc à ce moment-là, tu es toujours en start-up, si je me souviens bien.
Les premiers articles, c'était juste après ma rupture conventionnelle. Donc j'ai arrêté avec la start-up et les articles sont arrivés juste après. J'avais un petit peu plus de temps, d'où les communiqués de presse et tout ça.
Oui, parce que tout à l'heure, quand tu disais, voilà, je travaillais sur mes temps de week-end, je me suis posé la question, comment tu arrives à te motiver un week-end où tu as peut-être envie de te reposer après une journée, une semaine bien remplie, et de sacrifier, entre guillemets, une demi-journée de week-end pour ce projet. Alors, j'ai dit sacrifier, peut-être que toi, tu ne le vivais pas comme un sacrifice, justement, mais comment tu faisais ça ? Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, en fait, hein, de « Ok, j'ai un projet, mais comment je casse ça dans ma vie, quoi ?»
C'est pas facile tous les jours et tous les week-ends, hein, quand il fait super beau, quand on a envie de sortir, profiter. Mais bon, comme tu le dis, c'est pas comme ça que je le voyais. Je le voyais pas comme un sacrifice parce que j'aime faire ça. Donc finalement, je me disais, bon, ben, le matin, je vais faire ça. Puis l'après-midi, je sortirai. Enfin, c'est venu assez naturellement, au début en tout cas. Après, on rentre dans une forme de répétition au bout de 5, 6, 7 épisodes. Et on découvre moins de choses. Enfin, c'est moins stimulant de le faire. Donc là, il a fallu se remotiver. Et justement, c'était cyclique. C'est à ce moment-là où j'ai eu les articles de presse, donc plus de gens qui viennent faire des retours. Et bah, dès que j'ai un retour positif de quelqu'un qui prend le temps de m'écrire, de me dire « Ah ben merci, j'ai adoré cet épisode » ou « Grâce à vous, je suis allée voir ma grand-mère et j'ai osé lui poser les questions que j'osais jamais lui poser », ça, pour moi, ça me remotive. Dès que j'ai un petit message comme ça.
Ah ouais, c'est vraiment c'est tout le sens de ton projet initial.
Ouais.
De justement garder la mémoire des souvenirs, des
aînés. Bah, le mot sens, il est hyper important. Ouais. Parce que c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'était pas un sacrifice pour moi, c'est que ça avait du sens ce que je faisais. Donc je me posais pas la question du temps que ça me prenait.
Et puisque tu parles de sens, comment toi tu... Comment tu as ressenti que ça avait du sens pour toi ? Parce que tu as parlé de cette anecdote de repas de famille où tu t'es retrouvée à côté d'une personne et ça qui t'a donné envie de garder les souvenirs. Mais voilà, on a souvent en fait plein d'idées parfois qui peuvent passer dans la tête, des trucs qui font tilt et puis après ça file. Qu'est-ce qui, toi, t'as fait te dire « Ok, ce truc-là, c'est vraiment une idée qui n'est pas comme n'importe quelle autre idée qui pourrait me passer par la tête et j'ai envie d'aller explorer ce que je peux en faire ?»
Ça fait sens pour moi tout de suite, ça c'est clair. Ouais. Et en plus, depuis super longtemps. Parce que, je ne sais pas si tu te souviens, comme on a le même âge, tu as dû faire ce fameux TPE en première.
Oui.
Et bien, à l'époque, mon sujet, c'était déjà ça. J'étais allée interviewer des mamies avec mes deux copines, puisqu'on était trois. Et on avait voulu retracer l'histoire de l'Alsace à travers des témoignages de grand-mères, parce qu'on n'avait pris que des femmes. Et déjà, à cette époque, ça me passionnait en fait. C'est mon intérêt pour l'histoire, mon intérêt pour les histoires des gens, et je mixais les deux, et puis bah voilà, ça a fait sens. Et puis quand je suis allée voir la première personne, donc Mathilde, de l'épisode 1, qui pour information était aussi celle qu'on est allée interviewer pour ce fameux TPE, donc Mathilde a toujours été un grand soutien, et ben elle était tellement contente à la fin de l'épisode, et moi aussi je me suis sentie tellement bien, que je me suis dit ah ben, je veux refaire ça. Et c'est le... le même effet à chaque fois, de ressortir en me permettant de relativiser tous mes problèmes et en me disant, ben voilà, cette personne, je lui ai fait parler de sa vie. Et à la fin, elle était contente. Et Mathilde et d'autres hein, m'ont dit, c'est fou, quand vous êtes venue, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? J'ai rien à dire. Et quand elle est repartie, je me suis dit, ah ouais, j'ai fait plein de choses. Et donc ça me fait plaisir aussi.
Ouais, en fait, ouais, c'est, tu parles à la fois de ce que tu te dis, que ça a du sens et que c'est qu'il y a une certaine logique dans tes intérêts. Et puis, il y a aussi cette histoire de sensation, d'avoir cette prise de recul, cette joie, ce plaisir. C'est des bons indicateurs, ça, pour vérifier que quelque chose a du sens. Ouais.
Mmh. Et ça, c'est pour le côté humain. Et après, il y a le côté personnel et professionnel de se dire, j'avais une idée, je partais de rien, je n'y connaissais rien. Et un jour, c'est devenu un vrai truc. Et maintenant, j'ai eu des articles, j'ai des gens qui m'appellent pour que je fasse l'interview de leurs grands-parents. Et puis, j'ai des associations qui se sont engagées avec moi, qui sont prêtes à me financer, même des entreprises. Donc, c'est l'idée d'être partie de rien et d'avoir fait quelque chose. Ça, c'est très valorisant aussi et satisfaisant.
Et justement, tout à l'heure, tu parlais de cette campagne Ulule, donc je fais le lien avec ce que tu viens de dire, et effectivement, il y a de quoi être fière. Comment est-ce que t'es venue cette idée de campagne Ulule? À quel moment tu t'es dit, bon, maintenant, j'aimerais bien que les autres aussi m'aident à financer ce projet, qui au départ est un projet de cœur que je fais sur mon temps libre, qui me fait plaisir, et qui, à un moment donné, devient un projet avec de l'argent derrière?
C'est un projet qui m'a pris du temps. Comme je l'ai dit au début, j'ai investi moi-même au début pour quelques petites, quelques matériels, un micro, aller voir les gens. Et puis, au bout d'un moment, si je vais voir que des gens en Alsace, je vais avoir des histoires qui se ressemblent. Et je voulais élargir, tout simplement. Je voulais faire plus de com, je voulais avoir un meilleur matériel et je voulais pouvoir aller voir des gens à l'autre bout de la France si c'était possible. Donc, j'ai commencé à le faire en fonction de mes vacances, mais en finançant toujours tout. Et je me suis dit, bon, il y a plein de campagnes Ulule, j'en ai soutenu pas mal d'ailleurs. Est-ce que je pourrais pas faire la même chose pour avoir l'argent qui manque pour faire la suite du projet, en fait? Et ben, je me suis dit, ok, je vais créer une page sur Ulule, voir comment ça marche. Mais vraiment, j'étais au niveau zéro de ce projet-là. Donc j'ai créé ma page sur Ulule en renseignant juste le nom, Rembobinette, et une petite description du projet. Puis là, il est déjà 18h30 et je me suis dit, bon, je verrai demain, Et je ferme le PC. Et 10 minutes plus tard, j'ai quelqu'un d'Ulule qui m'appelle et qui me dit, bonjour, on a vu votre page qui a été créée. Et en fait, on aimerait vous dire qu'on a un sponsor qui cherche à sponsoriser des projets autour des personnes âgées. Et en fait, le comité de sélection, c'est demain matin. Ah, d'accord.
Bon, et là, il est 18h40.
Oui, exactement. Elle dit, est-ce que vous auriez le temps par hasard ce soir de remplir le truc? Je fais, oui, bien sûr. Et en fait, c'était un sponsor qui proposait de doubler les dons. Donc, dès que quelqu'un me donnait 1 euro, j'avais 2 euros. Alors, je n'allais pas dire non. Donc, j'ai rouvert mon PC, j'ai rempli tout le questionnaire. Et le lendemain matin, elle m'a rappelé pour faire les derniers ajustements. Et à 11h, il y avait le comité de sélection. Et à 14h, je savais que j'avais été sélectionnée. Donc, c'était le bon timing, mais à une heure près, je ne l'avais pas, en fait.
Ouais, elle est dingue, cette histoire, parce que c'est... Enfin, en fait, tu ne cherchais même pas de sponsor à ce moment-là. Je ne sais même pas si tu savais que ça existait, ce système de sponsoring. Et en même temps, quand un projet a du sens pour toi, il peut aussi avoir du sens pour d'autres personnes. Et ça crée des opportunités que tu as su saisir.
Ah ouais, c'était une grande joie parce que je m'y attendais pas. Et que quand ils ont accepté, je me suis dit oui, d'accord, ils sont OK de me donner parce qu'ils allaient jusqu'à 4500 euros. Et c'était énorme pour quelqu'un qui connaissait pas. Et puis surtout, moi, j'avais même pas besoin de ça. Enfin, je misais sur 4000 au total, donc il fallait que je récolte 2000. Ça a vachement simplifié ma campagne.
Et du coup, ta campagne, ça t'a demandé alors là d'utiliser aussi tes casquettes de marketeuse pour faire connaître la campagne et puis l'animer sur la durée. Et en même temps, t'as aussi parlé de cette campagne à tes proches. Alors, je sais qu'il y a des personnes que ça gênerait énormément de demander à des proches de participer financièrement à leur projet. J'en ai déjà parlé avec certaines personnes que j'ai accompagnées. Toi, est-ce que ça a été un sujet ?
pas du tout. Non, je me suis dit, bah, s'il donne, il donne. S'il donne pas, bah, il donne pas. Il n'y a pas de pression. Et puis, surtout, quand je demande, peut-être ce qui me permet de le faire facilement, c'est que je n'ai pas l'impression de demander pour moi. Je demande pour les vieux, pour le projet, en fait. Et donc, à partir de là, j'ai aucun scrupule à envoyer les messages et à demander au moins un partage sur les réseaux sociaux. Ça aurait été différent si je demandais quelque chose pour moi, par exemple. Je sais pas, à un moment, j'avais projet de faire le chemin de Compostelle en m'arrêtant à chaque étape, en interviewant des personnes. Ben là, je pense que j'aurais un petit peu plus de mal à demander parce que ça aurait été aussi un peu pour moi, pour mon voyage personnel. Enfin, donc ça, peut-être que ça aurait été plus compliqué, mais là, vraiment, quand je demandais ben, de l'argent, c'était pour les petits vieux. Voilà.
En fait, l'argent était un moyen de servir le sens du projet et tu avais complètement dissocié en fait, ta personne et le but de ce projet. Tu as glissé tout à l'heure cette histoire de rupture conventionnelle. Donc, je me souviens à cette période que donc, tu avais quitté ce monde de la start-up et que tu as commencé à réfléchir à la suite pour toi, puisque tu n'avais pas encore de prochaine étape professionnelle. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce moment d'introspection ou de... Je ne sais pas si c'était un passage à vide, mais en tout cas, c'était un passage que tu as connu. Et comment Rembobinette s'est inscrit dans cette période de ta vie ?
Alors, pour être claire, en start-up, je me suis épuisée. Et donc, j'ai été diagnostiquée épuisement professionnel. Donc, en anglais, le terme le plus connu, burn-out. Et je me suis dit, bon, ben... Enfin, c'est pas moi qui me le suis dit, en fait, c'est les médecins qui m'ont dit, bon, ben là, il va falloir s'arrêter au moins quelques mois. Je me suis dit, bon, ben, d'accord. Après plusieurs avis, je me suis bien rangée à leur opinion et je me suis arrêtée. Et c'est là qu'on a fait la rupture conventionnelle avec la start-up, parce qu'en start-up, voilà, je n'imaginais pas m'arrêter 3 mois et revenir et pas être sûre d'être au top. Ils avaient besoin de quelqu'un au taquet tout de suite. Donc, on a fait ça, ce qui était très bien pour moi, parce que j'ai pu me reposer et réfléchir à ce que je veux faire par la suite. Parce qu'un épuisement, ça vient pas seulement de beaucoup travailler ou d'avoir des horaires larges ou peu importe. Ça vient aussi de pas retrouver du sens, pas se retrouver soi-même dans son travail. Et le seul projet à cette époque dans lequel je me retrouvais, c'était Rembobinette. Parce que j'avais trouvé du sens, comme on le disait tout à l'heure. Et ça a été mon projet tuteur, fil rouge, je dirais même qui m'a sauvée tout au long de cette période de creux qui a duré 8-9 mois avant que je retrouve un travail. Parce que finalement, grâce à ça, je sortais, je rencontrais des gens. Je continuais à faire ce que j'aimais. Enfin, finalement, je me suis rendu compte que j'aimais faire du marketing, puisque un podcast est quand même 90% de marketing, mais dans un contexte qui me plaisait moi, où il y avait du sens et où je me retrouvais personnellement. Donc, ça m'a aidé à prendre la décision de rester dans le secteur du marketing lors de mon retour à l'emploi. Et puis, ça m'a aussi permis de retrouver de la confiance, de voir que j'arrivais à mener un projet, qu'il était intéressant, pas seulement pour moi, mais aussi pour des auditeurs, pour des contributeurs Ulule, pour des journalistes, donc des professionnels du podcast, parce qu'ils en font aussi. Et donc ça, ça m'a aidé à remonter la pente et puis à rester active socialement, professionnellement, mais à mon rythme. Donc, c'était vraiment un projet hyper important pour moi sur toute cette période, et ça le reste maintenant. Et sans ça, je ne sais pas trop ce que j'aurais fait, en fait. Peut-être que j'aurais relancé un autre projet à ce moment-là. Mais ça m'a beaucoup aidée. Et c'est même ça qui m'a aidé à retrouver un emploi. Parce que les journalistes dont je parlais tout à l'heure des dernières nouvelles d'Alsace, grâce à ça, j'ai pu faire passer mon CV dans cette structure. Et c'est là que je travaille maintenant.
Ah ouais. Donc en fait, le fait d'avoir cette casquette journalistique avec le podcast, d'interviewer, ça t'a facilité l'entrée dans le monde du journalisme, de la presse. Ouais, ça c'était assez inattendu, j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'était un milieu que tu envisageais au départ ou que tu aurais pu imaginer il y a quelques années.
Pas forcément. Moi, je pensais au milieu de l'édition plus, puisque j'adore les livres. Et en faisant le podcast, il y avait pas mal de gens autour de moi qui me disaient « Ah, mais ça te va bien, tu devrais devenir journaliste. » Oui, peut-être, enfin, je ne sais pas trop. Oui, ça me plaît d'aller interviewer des gens, mais sur un sujet très précis et une population très précise, je ne sais pas si j'aimerais faire ça surtout. Et finalement, c'est quand même un milieu qui m'a intéressée et dans lequel j'ai pu mettre un pied grâce à ce podcast, puisque c'est comme ça que j'ai eu les contacts. Et puis après, j'ai fait passer mon CV et c'est arrivé jusqu'au service marketing. Mais quand je l'ai dit aux gens que j'avais décroché un poste dans cette boîte, tout le monde m'a dit « Ah bah voilà, t'es journaliste !» Bah non, je travaille avec les journalistes, mais toujours dans ma branche à moi, le marketing, et ce qui ne m'empêchera pas de continuer mon podcast à côté. Et d'ailleurs, grâce à ça, je peux mieux comprendre le travail de mes collègues journalistes. Et puis, je peux m'améliorer aussi parce qu'ils me donnent des techniques pour l'enregistrement. Ils m'expliquent comment eux font leur podcast, comment ils rajoutent les effets sonores, par exemple. Donc, moi, ça m'a beaucoup nourrie de ce côté-là. Et puis, inversement, grâce à mon podcast, j'ai appris des choses que je peux appliquer dans ma vie de marketeuse. Donc, finalement, tout le monde est gagnant, je dirais.
Excellent. Et alors, tu parlais de ces 8-9 mois d'entre-deux. Est-ce que tu as exploré à un moment d'autres pistes que le marketing, puisque c'est de là dont tu venais et tu ne savais peut-être pas encore que c'était là que tu allais retourner parce que tu disais, voilà, j'adore l'histoire, j'aime mettre en lumière les personnes âgées. Est-ce qu'à un moment, ce secteur des personnes âgées t'a questionné au point de peut-être faire une reconversion dans ce domaine?
Oui, je suivais un bilan de compétences. Et ce qui est revenu toujours dans mon bilan de compétences, c'était rembobinette. Et je ne savais pas si c'était pour le côté marketing ou le côté personnes âgées. Et donc, j'ai creusé ce côté personnes âgées. Je me suis dit quels sont les métiers qui existent autour de la personne âgée. Et surtout, de moi, ce que je voyais, elle se sentait mieux une fois que je leur avais parlé. Et moi aussi, hein, c'est donnant, donnant. Et je voyais que celle qui arrivait encore à bouger, elle se sentait aussi beaucoup mieux que les autres, de pouvoir marcher, sortir, voir des gens, avoir une vie sociale. Et donc, j'ai regardé les métiers qui correspondaient à ça et j'étais arrivée à trois solutions. Donc, il y avait psychologue, tout simplement, mais spécialisée dans le grand âge. Et puis, il y avait psychomotricienne et ergothérapeute. Et j'ai en fait organisé des entretiens avec des personnes qui faisaient ce métier-là. Il y en a même certaines qui sont allées jusqu'à me proposer de passer une journée sur leur lieu de travail, de voir comment ça se passait concrètement, ce que j'ai fait. Et ça m'a permis de découvrir ces métiers. Après, il y avait d'autres contraintes, on va dire, pour changer, bien sûr. Il faudrait refaire des études, il y avait des contraintes financières. Enfin voilà, j'ai pesé le pour et le contre et finalement, je suis restée dans le marketing. Mais j'ai pris ce temps de vraiment regarder comment ça se passait et j'ai envisagé, ouais, carrément, de travailler tous les jours avec des personnes âgées. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont fait découvrir leur métier. Mmh. Et bien sûr, certaines, je suis restée en contact puisqu'elles sont en contact avec des personnes âgées qui parfois sont dans le podcast.
Ok, ouais. Donc, il y a vraiment cette capacité à faire des liens finalement avec toutes tes rencontres, quel que soit finalement le contexte. C'est, je trouve ça assez intéressant parce qu'en fait, de partir d'une idée un jour à un repas de famille et de voir où ça t'a mené en termes de rencontres, d'exploration de métiers, de souvenirs. Je trouve que c'est un peu la magie de quand on ose se lancer dans un projet sans exactement savoir de quoi il va être fait.
Oui, c'est ça. J'ai une tendance à tout planifier. Mais si j'avais planifié dans les détails, jamais j'aurais imaginé me retrouver là où je suis maintenant. En fait, il faut parfois se laisser porter. Et se dire que si on fait tout ça, si on met toutes les chances de notre côté, à un moment, la chance va nous sourire. Par exemple, je ne pouvais pas savoir qu'il y avait cette fameuse comité de décision pour les subventions Ulule, mais je me suis lancée et puis en fait, j'ai eu de la chance. Donc, il y a un peu des deux qui vient.
Ouais, complètement. Et est-ce que, puisqu'on est dans Meilleur Allié, je te pose la question, qu'est-ce que tu as appris sur toi pendant tout ce processus Qu'est-ce que tu as vécu à l'intérieur, en fait, qui t'a peut-être changé ou qui t'a permis de grandir voilà, c'est peut-être un petit peu perché comme question, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir aussi quelle est la part de développement personnel dans toute cette aventure.
Il y avait une part de développement personnel depuis le début, parce que c'est un nom que je voulais donner au podcast en me posant des questions sur ma vie. Quand j'ai commencé, j'avais 30 ans globalement, donc c'est le moment où tu te dis, est-ce que je me marie, est-ce que j'ai des enfants, etc. Et je me disais, toutes les questions que je me pose, les vieux se les seront posées aussi et je vais leur demander. Bon, ce côté-là est tombé à l'eau parce que les mamans, mamies que j'ai interviewées se m'ont un peu rionné en me disant bah, « Comment ça choisir d'avoir un enfant ?» Ben, nous, on ne choisissait pas, en fait. Ça arrivait, on n'avait pas de contraception ni rien, enfin bref. Donc, ce côté-là, maternité tombait à l'eau, mais par contre, tout le reste était bien là. C'est-à-dire que je posais des questions aux personnes âgées sur la vie en général et à un moment où moi, je m'en posais aussi beaucoup. Et je me suis rendu compte que la plupart, quand je leur demandais leurs meilleurs souvenirs, c'était leurs enfants, leur famille, leurs amis, des voyages, etc. Mais il n'y a personne qui m'a dit « Ah, mon meilleur souvenir, c'est le jour où au boulot, on a décroché telle ou telle bourse. » Enfin, ça, non. Donc, je me suis aussi rassurée sur la place que je voulais accorder au travail dans ma vie. Donc ça, ça m'a permis juste, venant d'une école de commerce, de me dire bah, que j'avais le droit de me créer une identité totalement hors du travail et que le travail pouvait juste être un moyen de subsistance et pas forcément un travail passion. Donc ça, c'était un premier apprentissage pour moi. Et après, dans les autres apprentissages plus personnels, il y avait ben, ma capacité à faire, à mener un projet, à avoir un côté entrepreneur dont je doutais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'ai pu apprendre sur moi ? Ben, peut-être le côté culot, d'oser aller voir les journalistes, d'oser proposer des partenariats avec des associations. Je m'en sentais pas forcément capable avant, mais c'est venu finalement de soi. Et puis ça a très bien marché. Donc ça, je suis contente et ça m'aide dans ma vie professionnelle, autant que personnelle d'ailleurs. Donc ça, c'était aussi un bel apprentissage.
Ok, ouais, génial. Ouais, et puis j'imagine aussi que le fait de voir des succès s'accumuler, ça donne confiance dans le fait de pouvoir réitérer, peut-être même voir plus grand pour la suite. Et justement, en parlant de la suite, je sais que tu as encore d'autres projets pour Rembobinette, puisque je sais que tu es une personne créative. Et là, justement, tu as cette nouvelle idée dont tu peux peut-être nous parler un peu plus en détail.
Oui, l'idée de base du podcast, c'était de porter la voix des aînés le plus loin possible. Or, ces aînés, j'avais dit au début que j'avais commencé à 70 ans, en vrai, maintenant, ils ont plutôt 100 ans, ce que j'ai dans le podcast, entre 95 et 102 pour le plus vieux. Et leur mémoire sert à d'autres générations, mais finalement, les générations plus jeunes qui m'écoutent, parfois, elles ont 70 ans et ne sont pas très à l'aise avec Internet, avec Spotify, Deezer. Enfin, quand je leur dis où écouter le podcast, j'ai le droit à des grands yeux. Et je me suis dit, il faut que je trouve un autre moyen pour que vraiment tout le monde ait accès. Et donc, je travaille actuellement à une exposition sonore pour que physiquement, des gens puissent venir, se poser, prendre un vieux téléphone vintage et le décrocher et écouter des extraits des témoignages. Donc ça, c'est pour la partie audio. Et puis après, j'imagine aussi des panneaux avec des portraits des personnes que j'ai interviewées pour que les gens puissent soit écouter, soit lire. Soit juste regarder les photos et puis peut-être rencontrer d'autres personnes sur ces stands et puis imaginer qui discutent de leurs propres souvenirs, voire qui laissent leurs propres souvenirs.
Ce que je trouve super intéressant aussi dans cet exemple-là, c'est le fait que tu as toujours le même fil rouge, transmettre les souvenirs, la parole, sauf que là, ce serait avec une stratégie différente. Il y a eu le podcast et là, ça passerait par une exposition. Et en fait, c'est intéressant, je trouve, de se dire bon bah, c'est quoi le but que je veux poursuivre et de d'être ouvert en fait à l'idée qu'il peut y avoir différentes manières de le poursuivre. Et donc peut-être qu'aujourd'hui, ce sera une expo et en fait demain peut-être un livre, peut-être un film. Finalement, tout ça pourrait être lié avec ton idée de départ.
Exactement, tout est envisageable et c'est ça qui est bien et que je te disais c'est. On ne peut pas tout prévoir sur faire des plans à 5 ans. Jamais, d'ailleurs, j'aurais eu cette idée d'expo sonore si je n'étais pas tombée sur le compte de quelqu'un qui retape des téléphones vintage pour qu'on puisse justement écouter des témoignages ou des podcasts ou quoi que ce soit d'autre. Et c'est là que j'ai eu l'idée. Donc forcément, on part avec une idée de départ et on se nourrit après de ce qu'on découvre sur la route.
Ouais, c'est génial. Et j'ai envie de rebondir sur un truc que tu as dit il y a quelques instants par rapport à la place du travail que tu as reconsidéré là ces derniers temps. Comment est-ce que toi, tu vois aujourd'hui la place de ce projet, on peut dire un projet de cœur, par rapport à ton travail, qui a quand même des liens assez évidents maintenant avec ce projet-là. Si tu devais mettre des mots un peu sur la place du travail aujourd'hui pour toi versus la place de ce projet, comment tu pourrais nous expliquer un peu ça ?
Au travail, j'aime mes missions, j'aime ce que je fais, et j'ai choisi exprès un travail, comme je disais, où je suis à 90% qui me laisse le temps à côté pour le projet. Donc, quand je suis au boulot, ben, je me consacre à fond à mon boulot. Et après, quand j'en sors, j'ai appris à plus y penser. Et justement, d'avoir un autre projet à côté qui va venir prendre la place mentale, ben, ça fait que je switch de l'un à l'autre et que c'est clair dans ma tête quand il y a une journée boulot, une journée rembobinette. Même si, tu l'as dit, c'est assez pour eux. Il y a des journalistes avec qui je bosse qui me disent « Ah bah tiens, il y a une personne âgée qui voulait me parler de son expérience, je lui ai donné ton numéro. » Je suis « Ah ok, bah d'accord, merci. » Donc il y a des liens, c'est sûr. Mais d'avoir ce projet à côté, ça me permet de bien faire la frontière. Donc ça, c'est ce qui est important. Et après, comme je disais, je viens d'une école de commerce, on a tendance à croire qu'on va se définir que par le travail. Et dans mon année, on va dire, de pause, c'est là où j'ai réussi à, vu que je ne pouvais plus me définir par le travail, hein, clairement, quand on me disait, bah, c'est quoi ton travail ? Je disais, bah, en ce moment, je suis au chômage. Mais je devais dire autre chose. Donc, j'avais d'autres identités qui étaient mises en avant. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres pour moi, pour garder un équilibre. Et que si je fais trop pencher la balance vers une, c'est les moments où je ne me sens pas très bien. Et je ne deviens pas bonne, d'ailleurs. Si je ne fais que rembobinette, je vais pas faire de bons épisodes, je vais me lasser aussi rapidement. Et pareil pour le boulot, pareil pour randonnée. En fait, il faut que j'ai de la variété et ça me permet de le faire avec mon boulot, rembobinette, mes randonnées, mes lectures, mes amis, enfin les diverses identités qu'on peut avoir.
D'où ta présentation du départ quand tu as dit « Moi, je m'appelle Aurélie et ce que j'aime, c'est marcher et lire » et tu t'es pas présentée par ton métier spécifiquement, quoi.
Oui, c'est vrai que depuis, je le fais plus.
Ok. Et donc, excuse-moi, j'ai un bug, je le couperai.
C'est ça qui est bien avec le podcast, on peut...
Quoique non, je le couperai pas, je me dis, c'est pas grave. Ce que je voulais te demander, c'est... là, avec le recul, qu'est-ce que ça t'a apporté aussi et qu'est-ce que ça t'apporte encore ? Puisque maintenant, ça fait... Ça fait 3 ans que tu as lancé ce projet. Il n'y a pas de lassitude, j'ai l'impression, en t'écoutant. Qu'est-ce que ça continue de t'apporter, en fait ?
Premièrement, de la joie. Parce que quand je rencontre les gens, je suis hyper contente. Quand je vois qu'ils sont fiers de leur épisode, ben, moi aussi, je le suis. Et puis, je pense que ça m'a apporté de grandes joies quand tu as... une interview qui se confirme, quand tu as un sponsor, une campagne Ulule qui marche, quand tu vois que tout le monde est derrière toi. Enfin, tout ça, ça booste. Et donc, c'est hyper important pour... ça me donne de l'énergie. Donc voilà, de la joie, de l'énergie, de la fierté aussi, d'avoir mené ce projet à bien et de pouvoir aider une population que je trouve délaissée. Et puis, ça m'a apporté des connaissances aussi plus techniques, forcément, pour le boulot, pour le montage, et puis un cercle aussi plus large. Donc, il y a une espèce de je ne sais pas combien tième cercle social, j'ai mon cercle pro, j'ai mon cercle amical, école, ancien, étudiant avec moi, et puis j'ai le cercle rembobinette avec plein de gens qui partagent les mêmes valeurs que moi, qui ont aussi envie d'aider les personnes âgées. Donc dans 2 semaines, je vais à l'inauguration d'un atelier cuisine intergénérationnel où c'est des mamies qui vont apprendre leurs meilleures recettes à des plus jeunes. Et voilà, c'est un projet que j'ai soutenu aussi en financement participatif. Et voilà, c'est des gens que je rencontre et petit à petit, ça me fait un cercle. Et on se soutient les uns les autres quand on a des projets. Et ça, c'est aussi super chouette d'avoir de plus en plus de soutien.
Ouais, et puis j'ai l'impression en t'écoutant que ça contribue vraiment à une forme d'équilibre pour toi aujourd'hui. De cette variété, ces cercles différents, sociaux, etc.
Ouais, c'est une identité que j'aime bien, le côté podcast, création. Et encore une fois, ça m'a fait rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement. Donc, que bénéf.
Du coup, là, on arrive vers la fin de notre conversation. J'avais envie de te demander, ce que ça signifiait pour toi d'être ta meilleure alliée dans ce projet.
Question difficile.
N'est-ce pas?
Vraiment le mot que je retiens le plus, parce que ça n'a pas été facile pour moi dans ma vie professionnelle, scolaire, etc., c'est d'avoir de la bienveillance envers moi-même. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu dans Rembobinette parce qu'il n'y avait pas de pression. C'est-à-dire ni pression financière, ni pression de résultat. C'était juste pour le plaisir. Et donc, j'ai appris à être bienveillante et je me suis dit qu'en étant comme ça, c'est-à-dire le contraire de perfectionniste, le contraire de « c'est passé bien ce que tu as fait », ça m'a permis d'aller jusque là où je suis maintenant, en fait. D'accepter que parfois, ce ne serait pas parfait, qu'il y aurait des petites erreurs et qu'il faut parfois se laisser un petit peu aller, pas tout planifier. Ben, ça m'a beaucoup aidée et j'essaye de le garder dans le reste de ma vie, tout simplement. D'avoir plus de bienveillance. Celle que je peux avoir envers les autres, ben, je ne l'avais pas envers moi-même. C'est ce qui est quand même un peu bête. Et voilà. Mais ce n'est pas facile à faire. Hein.
Non, je pense qu'on est beaucoup à soit avoir lutté ou soit continuer de lutter avec ça. Mais en tout cas, ce que tu expliques de ton parcours, c'est un excellent exemple parce qu'il y avait mille opportunités finalement de se juger ou d'être trop exigeante ou trop perfectionniste avec toi-même. Et là, tu nous as bien montré quel a été ton cheminement de pensée, ton cheminement dans tes actions et ce qui t'a permis d'avancer malgré l'imperfection, malgré l'incertitude, malgré l'inconfort, malgré des périodes pas toujours évidentes. Donc, ouais, cette idée de bienveillance, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été assez clé dans ton parcours avec Rembobinette et puis plus largement dans ta vie ces derniers temps.
C'est vraiment le ce que je retiens en premier. Et en deuxième, parce que je viens d'y penser en regardant mon tableau de vision à côté de moi, c'est l'étape par étape. Parce que pareil, j'avais eu beaucoup d'idées de projets et j'en ai encore en dehors de Rembobinette, mais je veux aller au bout de cette histoire d'abord. Souvent, je ne me lançais pas parce que je voyais tout ce qu'il y avait à faire, toute la montagne de choses devant moi avant d'arriver au but. Et donc, je me disais, laisse tomber, ça ne marchera jamais, je n'ai pas le temps, il y a trop de choses à faire, c'est trop compliqué. Et donc, je ne faisais pas. Alors que finalement, si on fait étape par étape, sans tout de suite se dire « il faut que je fasse une campagne Ulule à 4000 euros et que j'ai un reportage sur France 3 », si j'étais partie avec cette idée en tête, bien sûr, ça n'arriverait pas du jour au lendemain. Et je suis passée par des petites étapes. La première, tu trouves un nom. Ensuite, tu trouves un premier invité. Puis, tu fais un premier épisode. Puis, tu fais une première saison. Et en réfléchissant comme ça, ça m'a aidé à avancer, en être là où j'étais et où je suis maintenant. Et c'est vraiment important et c'est quelque chose que j'ai expérimenté, toi aussi en partie, en faisant le chemin de Compostelle. Pareil, si on part et qu'on dit « il faut que je marche jusqu'à Compostelle », on part jamais, c'est 1500 km. Si on se dit « aujourd'hui, je vais faire 15 km », et puis en fait, on les fait, et puis au bout de 10 jours, on se rend compte qu'on est déjà à quasiment 400 km de là où on est parti. Et voilà, c'est cette stratégie des petits pas que j'ai pu mettre en place. Donc, et être bienveillant avec soi, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a des jours où tu fais que 3 pas, tant pis. Et puis d'autres jours où tu fais 2 kilomètres, et puis tant mieux. Mais on va finir par arriver. C'est pas grave s'il y a des jours où on arrive moins.
Oui, ça remet pas en question tout le périple si certains jours on fait moins de kilomètres ou qu'il n'y a pas la même flamme que d'habitude.
Exactement.
Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire peut-être à une personne là, qui a une idée de projet, peut-être qui... Il y a un truc dans un coin de sa tête, il n'y a pas encore d'actions qui sont posées et qui hésite à se lancer.
On va reprendre le conseil de la bienveillance. Soyez bienveillant avec vous, ce ne sera peut-être pas parfait tout de suite. Voyez les choses étape par étape, construisez peut-être le projet étape par étape justement pour faire des petites actions au début qui sont faciles, qui sont envisageables et qui vont vous mettre le pied à l'étrier. Et le troisième truc qui moi m'a aidé, c'est d'en parler. Parce que plus j'en parlais avec des gens, plus ils me disaient « tiens, c'est marrant, j'ai lu un livre avec les mémoires de quelqu'un, puis il me le prêtait. Ma grand-mère, elle a un livre, mamie, raconte-moi ta vie, donc je peux te le montrer, comme ça donnera des idées de questions. » Voilà, en fait, en parlant, les gens, ils aident naturellement. Même ceux qui ne sont pas chauds, qui disent « qui va écouter un truc sur les vieux ?» là, tu commences à créer un argumentaire de pourquoi il faudrait écouter un podcast sur les personnes âgées. Et donc, les idées peuvent venir des autres. Et puis, comme on disait en début de podcast, c'est engageant, finalement, de dire qu'on se lance dans un projet parce que ça crée une attente chez les autres. Et on se dit, je vais me lancer et voir ce que ça donne.
Excellent conseil. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne qui, elle, s'est déjà lancée et connaît peut-être un petit coup de mou, un petit coup de flemme, peut-être, je ne sais pas, soit elle a un podcast avec des écoutes qui stagnent ou un projet pro qui n'a pas les premiers effets positifs escomptés. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ?
Que ça peut arriver. Bon, c'est pas toujours rose tout le temps. Il y a des fois, je me dis, mais pourquoi continuer ? Est-ce que ce n'est pas déjà assez ? Est-ce que... Enfin, voilà, on se pose des questions. Il y a des moments de remise en cause et de doute, c'est normal. Donc, on peut choisir de laisser passer, de faire une pause. Parfois, j'annonce que je prends un mois de vacances. Et donc, j'arrête de travailler sur le podcast pendant un mois. Mmh. Donc, ça peut être un moyen de retrouver l'énergie et de se dire au bout d'un mois que ça nous a manqué. Et donc, on a envie de reprendre. Et puis sinon, ce que je fais, c'est que je relis les messages gentils que j'ai reçus, en fait. Voilà, que ce soit des invités, que ce soit des auditeurs. Et ça me donne un coup de boost.
Mmh. Voilà. Ouais, et j'imagine que ça te rappelle pourquoi tu le fais.
Oui, ce souvenir du pourquoi qu'on perd en cours de route de temps en temps, ça fait du bien. Et puis là, le dernier truc que j'ai fait, puisque comme je disais, ça devient répétitif, hein, enregistrer, monter, faire la com... j'ai trouvé un autre moyen avec l'expo sonore de faire quelque chose de nouveau, de différent, qui me rechallenge et qui me fait rencontrer d'autres interlocuteurs aussi. Et puis peut-être aussi qui me fera rencontrer les gens. Puisque quand on fait un podcast, les gens nous écoutent, mais on a très peu de retours. On ne sait pas comment c'est pris. Alors que sur un lieu comme une exposition, ben je pourrais être là. Alors, pas tous les jours, mais je pourrais être là, parler avec les gens, savoir ce qu'ils en ont pensé. Je pense que c'est des métiers, des solitaires. C'est comme les gens qui écrivent des livres. Finalement, tu sors ton livre et puis ben, t'attends. Et tu ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Et c'est que lors des dédicaces que tu peux avoir des vrais retours ou grâce aux réseaux sociaux. Donc ça, c'est ça rebooste, c'est clair.
Ok, bah merci beaucoup de nous avoir partagé tout ton parcours avec Rembobinette. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de te remercier pour ton partage d'expérience, découvrir Rembobinette pour ceux qui ne connaissent pas ?
Je suis sur Instagram sous le nom de Rembobinette, ainsi que sur Facebook. Et puis sinon, pour écouter les podcasts, c'est sur toutes les plateformes d'écoute habituelles, Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire si vous écoutez soit cet épisode avec Marie, soit un épisode de Rembobinette. En tout cas, ça fait toujours plaisir de recevoir des retours.
Ok, super. Et ce sera aussi noté dans les notes de l'épisode. Moi, je te remercie vraiment pour ta transparence dans les questionnements, les moments difficiles et aussi les moments de joie. Je trouve que vraiment ton exemple est hyper inspirant et montre qu'on a la possibilité de faire des choses en dehors de son boulot, qu'il y a des croisements parfois possibles et en tout cas surtout des opportunités qui se créent du moment qu'on passe à l'action. Et donc je te remercie de nous avoir partagé tout ça.
Merci Marie.
Nous voilà de retour, juste vous et moi, pour la conclusion de cet épisode. J'espère que le parcours d'Aurélie avec Rembobinette vous aura inspiré et donné envie de lancer ce projet de cœur qui occupe peut-être vos pensées ou de persévérer si vous êtes déjà lancé. Quand quelque chose m'inspire, j'aime bien prendre des notes sur ce que j'ai envie d'en retenir, alors je vous partage 7 apprentissages que je tire de notre conversation. 1. Voir les premiers obstacles simplement comme des obstacles, pas comme des excuses ou des signes de l'univers que l'on devrait s'arrêter là. 2. Chercher ou trouver du plaisir dans le processus plutôt que de se fixer des objectifs purement sur le résultat. 3. Identifier les compétences professionnelles sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire grandir son projet perso. 4. Une fois qu'on a une intention qui a du sens, il existe différents moyens de la concrétiser. 5. Même quand on aime ce qu'on fait, restez vigilant à ne pas fusionner faire et être, car notre identité ne se résume ni à notre travail, ni à nos projets. 6. Être bienveillant avec soi, c'est aussi accepter que ce n'est pas facile tous les jours et que ce n'est pas une raison de tout laisser tomber. 7. On ne peut pas savoir à l'avance où vont nous mener nos projets, mais s'ils ont du sens pour nous, il y a des chances qu'ils nous mènent à de nouvelles opportunités qui nous correspondront tout autant. Voilà pour la petite synthèse, et comme toujours, si cet épisode vous a été utile, je vous invite à le partager autour de vous, car il aidera peut-être au moins une personne de votre entourage. Pour ma part, je vais bientôt démarrer mon congé maternité, et je vous retrouverai donc de vive voix à l'automne. Mes accompagnements de coaching et de bilan de compétences vont donc être en pause pendant cette période, mais il se pourrait bien néanmoins que je vous ai programmé quelques épisodes de podcast à écouter cet été. Alors restez dans les parages et abonnez-vous pour recevoir les notifications de ces prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt sur Meilleur Allié.